franceinter.fr.
Le journal Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Les sanctions après le poison. Londres expulse 23 diplomates russes et suspend ses relations bilatérales avec Moscou. Le Kremlin ne s'est pas expliqué sur l'ex-espion Skripal et regrette le choix de la confrontation. Nous sommes en direct des deux capitales dès le début du journal. Afrin bientôt complètement cerné. Erdogan l'espère. Les Kurdes dénoncent un nettoyage. Au sommaire également ce soir, la poursuite de la grève à Mayotte. Plus de personnel dans les EHPAD, mais avec quel argent? La droite qui fait pression sur la future réforme de la Constitution. Tourguenieff au théâtre. Et puis le temps nuageux demain. On se croirait revenu en pleine guerre froide en ce moment entre Londres et Moscou. Un ancien espion passé à l'ouest, mystérieusement empoisonné en pleine rue, et dans la foulée, une crise diplomatique. Les Anglais accusent les Russes qui nient et protestent, mais les sanctions sont tombées. Bonsoir Philippe Randé.
Bonsoir.
Vous êtes à Londres, Philippe, d'où Theresa May expulse donc plusieurs diplomates russes et suspend les contacts bilatéraux avec le Kremlin.
Oui, une Theresa May très déterminée qui n'a pas mâché ses mots. Lundi dernier, elle avait jugé très probable que la Russie soit responsable de l'empoisonnement de Sergueï Skripal. Aujourd'hui, devant les députés, elle est allée plus loin. Il n'y a pas d'autre conclusion que celle selon laquelle l'État russe est coupable de la tentative de meurtre. Un verdict sans appel, donc, suivi d'une série de sanctions, avec notamment l'expulsion de 23 diplomates russes sur les 59 accrédités au Royaume-Uni. Des diplomates qui ont été identifiés comme des agents du renseignement non déclarés. Theresa May.
Ils ont une semaine pour partir. C'est l'expulsion de diplomates la plus importante depuis plus de 30 ans. C'est à cause du fait que ça n'est pas la première fois que l'État russe s'en prend à notre pays. Nous allons suspendre tous les contacts bilatéraux de haut niveau prévus entre le Royaume-Uni et la Russie. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de participation des ministres ou des membres de la famille royale à la Coupe du monde de football cet été en Russie.
Theresa May qui a eu des mots particulièrement durs contre Vladimir Poutine, qui n'a pas répondu à sa demande d'explication sur cette affaire. Elle a regretté la voie tragique suivie par le président russe en matière de diplomatie. Londres qui a aussi promis de traquer les criminels et les élites corrompues. Il n'y a pas de place pour ces gens et pour leur argent dans notre pays, a conclu Theresa May.
Et le ministère britannique des Affaires étrangères appelle ses ressortissants qui voudraient aller en Russie à la vigilance. Merci Philippe Randé en direct de Londres avec Eric Audra. Moscou, de son côté, persiste à dénoncer un numéro de cirque de la part de la première ministre britannique et n'admet pas des accusations sans preuve. Bonsoir Claude Brouillot.
Bonsoir.
Correspondant de France Inter à Moscou, l'ambassade russe à Londres regrette des sanctions qu'elle qualifie d'hostiles, inacceptables et injustifiées. Et le Kremlin est ce soir sur le même registre guerrier.
Oui, les termes employés ici sont effectivement sans équivoque. Le ministère russe des Affaires étrangères parle de confrontation ou encore de riposte, car il ne fait guère de doute ce soir que le Kremlin va appliquer le principe de réciprocité. Les services de communication de Sergueï Lavrov considèrent comme totalement injustifiées les expulsions de ces diplomates de Grande-Bretagne. Dans un premier temps, comme souvent en pareille circonstance d'ailleurs, côté officiel russe, les premières réactions sont venues de parlementaires, en l'occurrence de Vladimir Djabarov, le vice-président de la Commission des Affaires étrangères du Conseil de la Fédération, la Chambre haute du Parlement russe. C'est lui le premier qui a laissé entendre le prochain renvoi donc de diplomates britanniques en poste en Russie. De son côté, Sergueï Lavrov ne se rendra évidemment pas en Grande-Bretagne comme le prévoyait son agenda, alors que Vladimir Poutine, en visite en Crimée, n'a lui pas du tout abordé la question des sanctions britanniques. C'est vrai que l'endroit aurait plutôt été mal choisi à cause notamment de l'annexion de la Crimée il y a 4 ans. La Russie traîne déjà comme un boulet une batterie de sanctions internationales. Difficile d'en rajouter dans le final de la campagne présidentielle.
Oui, Claude Brouillot en direct de Moscou. L'élection présidentielle russe a lieu dimanche. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, fait part de sa solidarité totale avec Theresa May face à ce qu'il appelle une attaque brutale très probablement inspirée par Moscou. Et il annonce que l'affaire Skripal sera au menu du Conseil européen de la semaine prochaine. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies a lieu dans une heure à New York.
Il est 19h05. Sébastien, Afrin, 350 000 habitants, sera-t-elle le théâtre d'un drame humanitaire de plus en Syrie?
Oui, on peut le redouter, à entendre le président turc Erdogan, qui espère que son armée aura complètement encerclé la ville d'ici ce soir pour en chasser les forces kurdes. L'offensive a commencé il y a 3 semaines et les civils qui n'ont pas pu fuir manquent d'eau et d'électricité. C'est une opération de nettoyage, dit Agit Potal, chargé des relations extérieures du Conseil démocratique kurde en France. Il est ici au micro de Christian Chéneau.
L'objectif principal de la Turquie et aussi d'Erdogan est d'envahir cette région, d'une part pour faire sortir les forces armées kurdes qui sont présentes sur cette région, mais d'autre part pour changer la démographie de cette région. C'est un nettoyage ethnique avant tout, avec les bombardements qu'ils commettent. Il y a effectivement un plan derrière. Si c'était seulement pour sécuriser la frontière, pourquoi ils vont à 50 km au-delà de la frontière qui se trouve le centre-ville? Pourquoi ils ne sécurisent pas leur frontière? Ils ont bâti un mur de 800 km durant toute la frontière de la Turquie et la Syrie. Ça ne suffit pas. Il veut à tout prix, rentrer là-bas pour déstabiliser. L'objectif principal, c'est de déstabiliser cette zone, ces acquis kurdes, pour donner de la force aux groupes djihadistes qui se trouvent là-bas dans cette région.
Et la situation est bien pire encore dans la Ghouta orientale, près de Damas. Une cinquantaine de blessés et de malades ont encore été évacués aujourd'hui de l'enclave rebelle, alors que les bombardements ont encore fait au moins 25 morts, toujours chez les civils, dont 3 enfants. Angela Merkel débute aujourd'hui son 4e mandat de chancelière, réélue à la tête d'une coalition après 6 mois de paralysie. Elle sera reçue vendredi à l'Elysée.
Quand les élèves quittent leur salle de classe,
ça
Sébastien.
Ça se passe aux États-Unis, Pierre, des milliers d'élèves partout dans le pays qui ont interrompu les cours pendant 17 minutes. Ce matin, une minute pour chacune des victimes de la tuerie dans un lycée de Floride il y a tout juste un mois, et contre les armes à feu. Grégory Phillips.
À 10h pile, les élèves de la Bliss Templeton Academy sortent sur la pelouse de leur lycée et assis autour du drapeau américain, ils respectent un long silence de 17 minutes pour les 17 victimes de Parkland. Ori est élève en classe de première. Beaucoup d'entre eux, dit-elle, étaient lycéens comme nous. Ils avaient notre âge. On veut montrer que tous les étudiants sont concernés par ces problèmes de violence et d'armes à feu. Qu'on soit dans une école publique ou privée, on fait tous face au même risque. Qu'on soit dans un état démocrate ou républicain, c'est pareil dans des petits ou des grands lycées. On peut tous être touchés par le problème de la violence et des armes à feu. En interrompant les cours, en descendant dans la rue, cette jeunesse a donc un message pour les adultes et les politiciens. Les adultes doivent entendre ça, dit Marie-Hélène, 18 ans, en terminale. Il faut soutenir les enfants dans ce combat. Il faut que les adultes appellent leurs élus et leur disent que ça ne va pas. Tout le monde doit être impliqué. Nous, on habite à Washington DC, remarque Henry, 16 ans. On pense peut-être que dans la capitale, on est épargné, mais ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, chaque année, 30 000 personnes meurent par arme à feu. C'est inacceptable. Après 17 minutes d'interruption des cours, les lycéens de la Bliss Templeton Academy ont regagné leur classe. D'autres ont marché vers la Maison Blanche et le Congrès, prémisse d'une grande manifestation nationale annoncée pour le 24 mars, ici, dans la capitale fédérale. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Annick Girardin est rentrée à Paris, mais rien n'est réglé à Mayotte. On croyait qu'un accord était possible après les propositions faites hier par la ministre des Outre-mer. Il n'en est rien. Les barrages qui paralysent l'île depuis plus de 3 semaines sont maintenus. Et la grève générale continue, Sandrine Etoarandeg.
L'accord de principe n'aura pas duré 24 heures. L'ensemble des représentants de l'intersyndicale et du collectif des citoyens dénoncent ce soir l'exercice de communication, disent-ils, de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui s'est empressée, selon eux, d'annoncer un accord alors qu'il ne s'agissait que de propositions. La base s'est exprimée. Elle n'en veut pas, répète Ahmed, qui installe des pneus sur le barrage de Tsararano, sur la côte est de Mayotte.
Le mouvement va se durcir en semaine, je pense. Continue, la grève continue, les barrages ne vont pas être levés parce qu'on n'a pas de réponse tout simplement de ce qu'on attend. On a l'impression qu'on nous méprise et on ne nous prend pas en considération.
Cet accord n'est pas valable car rien n'a été signé, insiste Zara. C'est la première fois que cette mère de famille qui porte le salouva, la tenue traditionnelle mahoraise, veille aussi tard. Elle ne conduit plus la nuit car elle a peur des agressions.
En fait, à chaque fois, on fait des promesses, mais on ne voit pas vraiment de réaction vive. Donc, par exemple, nous envoyer l'escadron, oui, on veut bien, mais les voir agir. Donc, les délinquants, on veut les voir au fond du trou, par exemple. On ne veut pas les voir, ils sont pris aujourd'hui et le lendemain, on les voit sur la route.
La contestation se poursuit et se durcit, répètent les manifestants. Certains entendent perturber la tenue du premier tour de l'élection législative partielle dimanche. Mayotte, Laurent Maquetti, Sandrine Etoarandeg, France Inter.
Les syndicats de la SNCF décideront demain s'ils font grève tous ensemble contre le projet de réforme du ferroviaire qui pourra être faite par ordonnance, cette réforme. Le projet de loi a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Il acte noir sur blanc et sur 4 pages, Maxime Debs, les pistes déjà retenues par Matignon.
Il y avait une ligne tracée par Édouard Philippe il y a 15 jours, pas lieu d'en dévier. Fin du statut pour les nouveaux entrants, transformation de la SNCF en société nationale à capitaux publics pour éviter des ennuis futurs avec Bruxelles. Tout y est, le gouvernement reste décidé à réformer vitesse grand V, et ce malgré la menace brandie par les syndicats d'une grève dure et sans pitié. À ces derniers, inquiets, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, tient d'ailleurs à répliquer.
J'ai bien noté que les organisations se réunissent demain. Moi, je leur redis qu'il y a des concertations, une cinquantaine de réunions qui sont programmées. Le gouvernement souhaite mener cette concertation approfondie, c'est dans cette logique-là qu'on se place.
La ministre qui réfute le terme de passage en force, ce n'est que lorsqu'un sujet sera suffisamment avancé avec les syndicats qu'il sera introduit dans le débat parlementaire. Des propos auxquels on ne croit pas ce soir côté syndical. Pour Sudrail, on est loin, très loin d'une concertation avec un gouvernement dur et inflexible. Seule réponse possible pour le troisième syndicat à la SNCF, une grève longue et ce, le plus rapidement possible.
Le projet de loi sera débattu le mois prochain à l'Assemblée, en mai au Sénat. Eux seront de nouveau dans la rue demain, les personnels des maisons de retraite médicalisées. Deuxième journée de mobilisation depuis le début de l'année, toujours pour dénoncer le manque d'effectifs dans les EHPAD et demander l'abrogation d'une réforme de leur financement. Sur ce point, la ministre est prête à un moratoire. Sur l'autre volet, un rapport parlementaire propose de doubler le nombre de soignants au chevet des résidents d'ici 4 ans. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Mais le problème est toujours le même. Laurent, comment financer tout cela?
Alors, on dénombre aujourd'hui dans les EHPAD pas plus de 30 aides-soignants et infirmiers pour 100 résidents, indique ce rapport parlementaire. Rapport salué par tous les députés de la France insoumise à La République En Marche. Mais doubler ce personnel dans les EHPAD coûterait, indique également ce rapport, entre 8 et 10 milliards d'euros chaque année. Là où le gouvernement annonce seulement 100 petits millions d'euros supplémentaires pour les EHPAD cette année. Le gouvernement doit donc inventer de nouvelles solutions de financement, explique une ancienne directrice d'EHPAD. Elle est aujourd'hui la députée des Hautes-Pyrénées, Jeannine Dubié.
Aujourd'hui, on laisse ça dans le champ de l'aide sociale. Il faut passer à un système de solidarité nationale, beaucoup plus universel. Il nous faut effectivement un texte de loi sur ce que l'on a appelé le cinquième risque au sein de la branche maladie. Je rappelle toujours que la CSG, quand elle a été créée par le gouvernement de Michel Rocard, elle était là pour venir financer la dépendance. On voit bien où on en est aujourd'hui.
Et sur la question du financement de la dépendance, eh bien, le consensus entre députés est évidemment beaucoup moins large. Toutes les pistes sont pourtant ouvertes. De l'assurance vie à la suppression d'un deuxième jour férié, en passant par la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale.
Laurent Kramer, la France va signer Google et Apple en justice pour pratiques commerciales abusives. Le ministre de l'économie demande contre les deux géants une sanction de 2 millions d'euros. Google répond que ces pratiques sont conformes à la législation française.
Sébastien Pavour, les consultations sont terminées sur la réforme de la Constitution.
10 jours que les élus se suivent, rue de Varennes, avant le verdict d'Édouard Philippe. Le gouvernement propose notamment d'interdire le cumul des mandats dans le temps, au-delà de 3 mandats de suite, de faire élire 10 à 25% des députés à la proportionnelle, ou encore de réduire d'un quart à un tiers le nombre de députés et de sénateurs. Bonsoir Karine Bécard.
Bonsoir.
Dernier à être reçu cet après-midi, les présidents de l'Assemblée et surtout du Sénat, mais Gérard Larcher est parti sans rien vous dire.
Oui, Gérard Larcher, habituellement, vous savez, si prolixe quand il s'agit de parler de la réforme constitutionnelle, eh bien, est sorti il y a une demi-heure à peine du bureau d'Édouard Philippe en refusant de faire le moindre commentaire.
Bien passé, voilà.
Mais encore un petit peu plus. Voilà, c'est vrai que depuis la fin du mois de janvier, Gérard Larcher n'a cessé de rappeler les lignes rouges qu'il a fixées. Bruno Retailleau, le président du groupe des sénateurs Les Républicains, qui a été reçu lui aussi en début d'après-midi à Matignon, les a réénoncées, ces lignes rouges, en s'en prenant une nouvelle fois au président Macron.
Il cherche à rabaisser le Parlement. Est-ce que les Français veulent un président tout puissant ou est-ce que les Français veulent une démocratie moderne ? Une démocratie moderne, c'est un exécutif qui joue son rôle, c'est aussi un Parlement qui joue son rôle, pas un Parlement diminué. Toutes les révisions constitutionnelles, depuis le début de la Ve République, ont cherché à corriger ce déséquilibre.
Dans cette bataille institutionnelle, la droite tout de même continue à mettre la pression. Christian Jacob a été extrêmement clair, lui aussi cet après-midi. Pas question d'accepter que soient saucissonnés les différents volets que comporte cette réforme, le patron des députés LR.
Soit on trouve un accord sur la loi organique, sur la loi ordinaire et sur la réforme de la Constitution, les trois ensemble. Sinon, on fait le constat qu'il n'y a pas d'accord.
Alors maintenant, concrètement, que va-t-il se passer ? Dans quelques jours, le texte de cette réforme constitutionnelle sera envoyé au Conseil d'État avant d'arriver, si tout va bien, mi-avril, au mieux, en Conseil des ministres.
Karine Bécard, merci, en direct de Matignon avec Jean-André Giannichini. C'est un choix qui fait grincer des dents. C'est le journaliste Bertrand Delay qui devient PDG de la chaîne parlementaire. Il est l'auteur de deux documentaires sur le chef de l'État et son choix est critiqué par une bonne partie de la classe politique qui ironise sur le nouveau patron de LCP, la chaîne présidentielle, dont la députée France Insoumise Clémentine Autain au micro d'Estelle Schmitt.
C'est une décision éminemment politique. Vous vous rendez compte, le message qui est envoyé. Vous désignez un homme qui a fait deux documentaires sur Emmanuel Macron et qui est tout simplement un militant de La République En Marche. Il ne cesse de faire des tweets pour faire l'éloge de l'action du président de la République et il s'en prend à toutes les oppositions. Et donc ce matin en bureau, le vote a été clair. Les députés de La République En Marche se sont prononcés en faveur de cette désignation et toutes les oppositions ont dit que ce geste politique était inacceptable. C'est un symptôme d'un pouvoir qui est un pouvoir autoritaire. Je peux même vous dire que si nous avions été majoritaires, imaginez qu'on ait dit, ah bah tiens, pour diriger la chaîne parlementaire, on va prendre Gilles Perret, vous voyez, celui qui vient de réaliser le film Soumis. Qu'est-ce que vous auriez dit ? Vous nous auriez dit on est au Venezuela ou à Cuba. Et bien là, moi, je vous dis que la décision qui vient d'être prise est une décision absolument, absolument inadmissible.
Il était considéré comme l'un des bourreaux du groupe État islamique. Le djihadiste français Maxime Ochar aurait été tué en Syrie. Atmosphère proprement insupportable aujourd'hui encore au procès de Jacques Ranson, le tueur de la gare de Perpignan, jugé aux assises pour les viols, meurtres ou tentatives sur quatre jeunes femmes il y a 20 ans. La cour se penchait aujourd'hui sur la mort d'une jeune femme qui allait avoir 22 ans dans une ambiance tendue, Corinne Audouin.
Elle était pleine de vie, elle était heureuse, joyeuse, commence Nathalie. À 43 ans, cette femme brune et menue évoque la mémoire de Marie-Hélène Gonzalez. C'était mon amie, c'était Marie, dit-elle joliment, une fille extra qui était toujours là pour les autres. Elle voyait jamais le danger, je l'aimais, quoi. Sur le banc des parties civiles, la mère, la sœur, le frère de Marie-Hélène, serrés les uns contre les autres, pleurent doucement. Ce matin, c'est la colère qui a fait violemment irruption dans le prétoire. Les deux frères de Marie-Hélène Gonzalez se sont jetés sur le box vitré pour essayer de frapper Jacques Ranson avant d'être rapidement maîtrisés. Ils avaient enduré toute la matinée le récit du meurtre de leur sœur, débité d'une voix plate par l'accusé. Je l'ai prise en stop près de la gare. Je l'ai amenée dans un terrain vague. J'ai essayé de la violer. Je l'ai étranglée avec un fil électrique, a-t-il expliqué. Jacques Ranson a reconnu avoir sectionné la tête et les mains de la jeune femme pour pas qu'on la reconnaisse. Impossible d'en tirer plus. J'ai fait beaucoup de mal, dit-il. J'ai pas les mots pour expliquer ce que j'ai fait. Il reste du temps d'ici la fin du procès, conclut le président. À un moment ou un autre, il va falloir trouver les mots, monsieur Ranson. Perpignan, Corinne Audouin, France Inter.
On termine avec du théâtre russe du 19e siècle, mais pas celui de Tchekhov. On s'intéresse à son contemporain Ivan Tourguenieff et à sa pièce la plus célèbre, Un dimanche à la campagne, qui se joue en ce moment au théâtre Déjazé à Paris. Mise en scène Alain Françon avec Anouk Grimbert et Michel Esco. Et c'est un total enchantement d'après Stéphane Capron.
La pièce est une plongée dans la société bourgeoise russe du 19e, mais c'est surtout une belle histoire sur une passion amoureuse impossible. Anouk Grimberg incarne Natalia, une mère de famille bouleversée par l'irruption d'un jeune homme dans sa vie.
C'est une pièce qui baigne dans l'amour, qui raconte aussi comment on est déglingué quand un truc comme ça déboule dans votre vie, le désir. Elle lutte contre ça et elle ne peut pas faire autre chose que d'aller vers ça, même si elle sait qu'elle va à sa perte. C'est aussi une joie d'être traversée par des bourrasques. On entend les oiseaux, il y a de la musique qui vous fait fondre le cœur. Et puis il y a des gens qui s'aiment.
Ce qui frappe dans l'écriture de Tourguenieff, c'est sa façon de décrire les belles manières de cette société russe du 19e.
Tourguenieff, ça fait longtemps qu'il a écrit cette pièce, quoi. Et c'est si moderne. Et puis il parle si bien des femmes, il parle si bien des hommes. Et lui, il a passé presque toute sa vie à aimer une femme qu'il n'a jamais touchée. Mais c'était son amour. À cette époque-là, les hommes étaient peut-être un peu moins des bourrins qu'aujourd'hui.
L'humanité transpire dans l'écriture de Tourguenieff, mais aussi dans la nouvelle traduction de Michel Vinavert. On sort le cœur brisé de ce mois à la campagne, brisé mais léger devant tant de passions amoureuses.
Un dimanche à la campagne. C'est au théâtre Déjazé à Paris jusqu'au 28 avril, Pierre.
C'était le journal de Sébastien Paour. Dans quelques instants, le téléphone sonne. Ce soir, vos questions et remarques sur ce que vous attendez du travail des journalistes. Méfiance ou confiance envers les médias, les pouvoirs financiers et la presse, l'influence des blogs et des réseaux sociaux. Le 01 45 24 7000, le standard est à votre disposition. Mais d'abord, la météo.
La météo avec Bleu Forêt, fabricant français de collants, chaussettes, soquettes en matière naturelle. Coton, fil d'Écosse, soie, laine, uni ou en dentelle, rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Sébastien Léas de Météo France est avec nous. Sébastien, changement de temps pour demain.
Oui Pierre, après cette belle journée bien ensoleillée, place à des conditions plus agitées pour demain, puisqu'une perturbation pluvieuse aborde actuellement la façade atlantique et des entrées maritimes se mettent en place sur le Languedoc. Demain, la matinée s'annonce donc bien maussade du Languedoc à la Provence et la Corse, jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté, à la Lorraine et au Nord-Pas-de-Calais, avec des pluies localement soutenues, voire orageuses, et de la neige des 1000 mètres d'altitude. La pluie va ensuite glisser un peu vers l'est pour s'étendre demain après-midi de l'Alsace et la Lorraine aux Alpes et à la Côte d'Azur, ainsi qu'en Corse, et traînant également près des frontières belges. À l'arrière de cette perturbation, de timides éclaircies arriveront à se dessiner, plus nettes en allant vers le sud, mais il faut s'attendre à des averses, peu nombreuses en matinée mais plus fréquentes l'après-midi, avec même des risques d'orages, notamment du Poitou-Charentes à la Basse-Normandie et à l'est de la Bretagne.
Et les températures amorcent une baisse?
Oui, les maximales resteront quand même au-dessus des valeurs de saison demain, hormis sur le nord-est où on va perdre parfois 4 à 6 degrés par rapport à aujourd'hui, avec par exemple 9 degrés à Mulhouse, alors qu'il a fait 14 degrés cet après-midi. Prévoyez 10 degrés pour Grenoble, 11 degrés à Reims et à Lille, 13 degrés au Havre, à Rennes ou à Clermont-Ferrand, 16 degrés pour Bordeaux, 17 à Marseille et à Pau, et le maximum sera pour Carcassonne avec 20 degrés.
Sébastien Léas de Météo France.